Je vais faire un petit peu de pub.
Non, bah, donc, très bien.
On prend une adhésion, si vous voulez, pour l'année. Et pendant notre séjour, on rend des services. Donc, on va faire l'accueil des nouveaux, etc. Et ça nous permet justement de payer pour 6 semaines. 6 semaines, hein. On paye 1500 euros.
Je suis pas bon en calcul mental. Ça fait combien la nuit, ça ?
La nuit, ça doit faire 22 ou 23 euros. Wow. Tous les deux, hein. Et on a l'électricité, on a les machines à laver, le linge, on a
tout. Oui, parce que tout est compris, on est d'accord.
Ah ben tout est compris, on rajoute rien. Alors c'est vrai, il n'y a pas d'animation.
C'est pas grave.
Mais après, nous, puisque c'est quand même, on est quand même nombreux, et ben nous, on va organiser un concours de pétanque le soir.
Bah voilà. Faites un bon barbecue, et puis voilà, on est bien.
Barbecue dans le midi, on n'a pas trop.
Ah oui, c'est vrai, on est tout. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Moi, je campais dans le nord, on était tranquille.
Après, dans le sud, avant, on avait le droit aussi. Mais on peut faire tellement de choses qu'on ne fait pas dans la vie quotidienne. Et c'est ça, les vacances.
Et ce que je disais tout à l'heure, ça nous coupe tellement de ce qu'on est. Alors voilà. De ce qu'on est devenu, quoi, de l'immédiateté, de l'accès à tout. Enfin, c'est un vrai dépaysement, Frédéric.
Les vraies vacances.
Merci.
J'ai une grande maison, je suis à la campagne, j'ai plein de terrain, j'ai internet, j'ai la télé, j'ai les ordi, machin. Pendant 6 semaines, j'ai rien de tout ça. Quand je reviens à la maison, j'ouvre la porte, oh mais qu'est-ce qu'elle est grande ma cuisine, oh mais on a tout ça comme casserole, oh là, mais pourquoi on en a autant? Alors que en camping, j'ai une casserole, une poêle,
et on se débrouille, et tout va bien.
On mange très bien, hein. Y a pas de souci, hein. On
merci
pas la dalle,
beaucoup,
hein.
Frédéric, c'était extrêmement réjouissant ce témoignage de Frédéric, et belles vacances. Vous allez où cet été? Vous retournez là-bas?
Ah ben non, alors, nous, ça fait 30... moi, depuis 78, je vais à Bormes-les-Mimosas.
Bon, formidable. Voilà. Eh ben, belles vacances d'avance,
oh oui, y a pas
Frédéric.
De
et bel été à vous. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous au 32-16. Nicolas Daillot, nous rejoint. Bonjour, Nicolas Daillot.
Oui, bonjour.
Président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. Merci d'être avec nous dans Restel Midi sur RMC, RMC Story. Il est beau ce témoignage de Frédéric.
Eh oui, il y a plein de passion dans vos débats, dites donc.
Ouais.
Mais pour une raison simple, c'est que, en fait, comme c'est un mode d'hébergement de passion, le camping, chacun est persuadé finalement que sa forme de camping préférée est la vraie, la meilleure et presque l'unique. Ouais. Alors qu'en réalité, derrière le vocable camping, il y a des réalités très variées. Et chacun y trouve son compte. Celui qui fait de l'insolite pendant une nuit ou deux en avant-saison, celui qui a sa caravane depuis 25 ans, celui qui loue un mobilhome, celui qui change de mode d'hébergement d'une période de vacances à l'autre. En réalité, chacun trouve, encore une fois, ce qu'il recherche. Mais si je peux me permettre juste de donner un petit chiffre, histoire de remettre les choses au centre du débat. On dit que, alors le thème de votre débat, je crois, c'est le camping est fini ou...
Non. La vraie question, c'est qu'on voilà, on dit aujourd'hui, parce que c'est vrai, il y a de moins en moins de campings municipaux, les emplacements de tentes ont quand même été un peu réduits, les mobilhomes connaissent un vrai boom, j'ai plus les chiffres en tête, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de mobilhomes, et on se demande si le vrai camping, je re-remploie l'expression, c'est pas grave, mes parents écoutent, mais ils me pardonneront d'être vulgaire, mais on joue un peu au vieux con, mais est-ce que le vrai camping, celui qu'on a connu avant, sous la tente, le simple emplacement, et puis on se débrouille comme on peut, est-ce que ce vrai camping-là, il n'est pas un peu en train de mourir quand même?
Pas du tout. Il faut partir d'un chiffre.
Ouais.
2010, les emplacements nus, c'est-à-dire pour y planter sa tente, stationner sa caravane ou venir en camping-car, c'était 61,6 millions de nuitées dans l'année. L'année dernière, les emplacements nus, c'est 62 millions de nuitées. C'est la même chose qu'il y a 15 ans presque.
Bon, super.
Donc il n'y a pas d'effondrement du tout, c'est même le contraire. Et aussi parce que comme les campings ont beaucoup progressé au cours des dernières années, non seulement les Français qui avaient l'habitude du culturel de faire du camping continuent d'en faire, et les étrangers qui boudaient, pour une partie d'entre eux, qui boudaient la France parce que les campings de France n'étaient pas suffisamment qualitatifs à leurs yeux, les sanitaires, les équipements de loisirs, etc. Or les campings ont beaucoup investi depuis 15 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une proportion plus importante, en tout cas une attractivité plus importante représente auprès de la clientèle de campeurs étrangers, les Allemands, les Anglais, les Belges, etc. Et ce qui fait que l'emplacement nu marche mieux, enfin en tout cas autant qu'il y a 15 ans, et même un peu mieux si on regarde les chiffres. Par contre, tout le volume supplémentaire de clients qui a été accueilli en 15 ans, parce qu'on est passé de 20 millions à 27 millions de personnes accueillies par an dans les campings français, donc les 7 millions de personnes supplémentaires, ce sont justement les personnes qui viennent en location de mobil-home, en location de chalet, de roulotte, de cabane, etc. En réalité, le camping nu est stable, et le delta d'évolution, ce sont les hébergements locatifs. Mais là où il ne faut pas opposer l'un et l'autre, c'est que, économiquement parlant, c'est le succès de l'hébergement locatif qui a permis d'améliorer qualitativement les prestations offertes par les campings et donc de conforter la clientèle des campings, des campeurs. Parce que si les gens font encore beaucoup de camping aujourd'hui, que ce soit les Français ou les étrangers, dans les campings français...
C'est parce que l'offre s'est étoffée et qu'on peut avoir, on peut en avoir pour ce qu'on veut.
En fait, les mobil-homes payent les sanitaires dernier cri. Les mobil-homes payent les belles aires de jeu. Et donc celui qui vient en tente à 20 euros par nuit,
il profite de
prestations qu'il n'aurait pas s'il n'y avait eu que des campeurs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, qui nous a un petit peu rassuré. Benjamin, nous qui aimons le camping traditionnel. Marie-Noël nous rejoint au 32-16. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est dans le département de l'Eure.
C'est ça.
Vous faites quoi dans la vie, Marie-Noël ?
Auxiliaire de vie.
Très bien. Le camping, vous pratiquez ?
Oui.
Très bien. Quel type de camping ?
Alors, cette année, on a acheté un mobil-home, mais sinon, on faisait de la caravane.
D'accord, vous faisiez de la caravane et vous êtes acheté un mobil-home.
Ouais.
Pourquoi ce choix ?
Parce qu'en vieillissant, c'est plus confortable.
Ouais, c'est sûr.
Oui, c'est l'autre raison.
Ouais. Bon, est-ce que le vrai camping est toujours vivant ?
Bah, j'ai l'impression que non, parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver des places. Il y en a encore dans les campings, mais alors il y en a très peu. Donc, moi, je trouve ça dommage.
Vous allez où exactement ? Enfin, je ne vous demande pas le nom du camping, mais dans quel coin ?
Dans la Bretagne.
En Bretagne ?
Ouais.
D'accord. Et ça fait longtemps que vous y alliez ?
Bah, régulièrement, mais on ne va pas toujours au même endroit. Nous, on aime bien bouger.
D'accord, mais aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un mobil-home. Je ne me suis pas trompé.
Non.
Vous allez en vacances en mobil-home, c'est ça ?
Non. On va en vacances. On allait en vacances en caravane et là, on vient de s'acheter un camping-car.
Ah, camping-car. Ah oui,
Même en caravane, on aimait bien bouger, nous.
Bah oui, j'imagine.
Ce qu'on aime bien, c'est aller, une année on va à un endroit, l'année d'après on va à un autre. C'est ça aussi l'avantage de la caravane.
Mais c'est vrai que le camping-car, c'est encore un autre...
C'est autre chose. Mais je sais que moi, mes enfants, mon fils a une caravane, on fait régulièrement avec lui pour partir en vacances, c'était sympa, quoi.
Merci beaucoup.
On a de mal à trouver des places.
Bah, c'est sûr que ça dépend peut-être des endroits, mais la montée de gamme, elle est réelle. Hein. Tout à l'heure, tu nous donnais des chiffres, Alfred. Bah, on veut de plus en plus de confort, retrouver un peu le confort qu'on a chez soi ailleurs, mais c'est pas tout à fait la notion du camping qu'on a connu. Marie-Noël, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir rejoint en 32-16. On retrouve Sébastien. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
On est dans le Vaucluse cette fois.
C'est ça, dans le Vaucluse.
Sébastien,
on sent l'accent.
Sébastien, campeur ?
Non, je suis propriétaire de camping.
Ah, très bien, propriétaire de camping dans le Vaucluse.
Dans le Vaucluse, c'est ça, Nord Vaucluse.
Ok, est-ce que le vrai camping est mort ?
Ben non, heureusement d'ailleurs. Vous m'avez fait peur quand j'ai
dit. Je vous ai donné un coup au cœur.
Ben oui, parce que en fait, il y en a, comme disait notre président, il y en a pour tout le monde. Et il a oublié de préciser quelque chose, Nicolas Daillot.
Nicolas Daillot, ouais.
Voilà, c'est que il y a beaucoup moins de campings municipaux. Pourquoi ? Parce que les mairies et les communautés, ils veulent plus les prendre en charge. Il y a trop de prix, il y a trop de remises aux normes. C'est pour ça qu'il n'y a plus de municipaux et que toutes les mairies se séparent des petits campings.
Bon, dans votre camping, Sébastien. Si demain, moi, je dis avec Alfred, tiens, Alfred, ça te dirait qu'on parte tous les deux sur la route,
carrément,
qu'on aille en vacances, on arrive avec notre tente, on veut un emplacement nu, on n'est pas difficile, hein, nous, on veut juste un accès à l'eau, allez, si l'électricité c'est bien, mais bon, voilà, on se débrouillera, on est très bien. Est-ce qu'on va trouver un emplacement chez vous ?
Mais bien sûr, nous on a encore quand même 60 emplacements, on est un camping de 80 emplacements.
D'accord, et on paye tous les deux, on partage, Alfred, on est d'accord ?
Sans problème.
On partage, ça va nous revenir cher ou pas ?
Ben, deux personnes, si vous venez, il y en a pour 22, entre 24 euros avec l'électricité, la journée.
Wow.
Ah ouais.
Bon, tu mets des.
C'est hyper intéressant.
Je mets 10,
il y a
je mets 12.
Il y a la piscine.
C'est pas parce qu'on est un petit camping qu'on n'a pas des services qui vont avec. On a une piscine chauffée, on a une grande piscine, on a une patinoire, on a un petit toboggan pour les enfants. On a ce qu'il faut, des taux du ping-pong.
Et est-ce que
petit
ça.
Camping, ça veut tout dire, quoi.
Et est-ce que, comme Nicolas Daillot le disait, est-ce que ce sont les touristes qui préfèrent un peu plus de confort, donc ils vont par exemple en mobil-home, et qui permettent de payer ça pour ceux qui viennent en tente?
Ben non, je suis pas trop d'accord. Non, je suis pas trop d'accord. Nous, c'est nos emplacements nus qui continuent à nous faire vivre, qui nous permet d'investir aussi dans des centres. Comme il dit, maintenant les gens, ils regardent la première chose qu'ils regardent quand ils arrivent dans un camping, c'est les sanitaires. C'est tout. Ils arrivent bien avant de payer leur place, ils montent au sanitaire et ils regardent la propreté des sanitaires. Ben. C'est la première chose. Et l'état des sanitaires, c'est primordial.
Ma mère m'a toujours dit, si tu as un doute sur un restaurant, quand tu rentres, tu vas d'abord aux toilettes.
Exactement.
Tu vois l'état des toilettes.
Tu connais donc l'état de la cuisine.
Exactement.
Et en plus, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'entre un 3 étoiles, un 4 étoiles ou un 5 étoiles, la qualité des sanitaires ne rentre pas en compte. On peut aller dans un 5 étoiles et trouver des sanitaires catastrophiques et aller dans un 2 étoiles avec des super sanitaires. Donc ça, le critère des étoiles, il ne faut pas en tenir compte, si ce n'est pour les animations, effectivement. Quand on va sur un 4 étoiles ou un 5 étoiles, on a des animations pour les enfants, avec un club enfant. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Moi, je suis optimiste et nos nuitées en emplacement nu continuent à progresser, il n'y a pas de souci. Et plus l'effet Covid, quoi. Après le Covid, on a eu un boom. Les gens sont revenus à la base. Le problème aussi, c'est que maintenant, les moyens sont de plus en plus limités. On le voit, les Français, ça devient compliqué.
Sûr,
donc, ceux qui venaient avant en mobil-home, il y en a qui reviennent sur les emplacements en caravane.
Ah, bah, oui.
Et ça, on en tient pas mal. Compte.
Sébastien, le camping, il est déjà ouvert, là?
Ah, bien sûr, 1er mars, 25 septembre.
Bon, ça va être une belle saison, vous pensez?
Pour l'instant, les chiffres sont très très bons, mais attention, parce que le contexte économique européen peut mettre un coup à un moment donné, donc on va être prudent, on va dire.
On croise les doigts, en tout cas pour vous, Sébastien, on vous souhaite une belle saison. Merci.
Allez, merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous depuis le Vaucluse, depuis Orange. Sébastien qui nous a appelé au 32-16, on vous a posé la question également sur nos réseaux sociaux. Plus de tentes, ouais, il y en a encore, allez, moins de tentes en tout cas. Beaucoup de mobilos, mais à quel prix? Est-ce que le vrai camping est mort?
Eh bien, vous répondez oui à 58%, non à 42%.
Ça va.
Dernier message de Guy qui nous dit les campings actuels sont juste à l'image de l'augmentation du pouvoir d'achat des utilisateurs.
Alors, on n'attend pas Patrick?
Bah évidemment, on ne pouvait que terminer là-dessus.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC Conso.
Rien que ça, Charlotte. Rien que ça. Qui dit soleil? Salut, Charlotte.
Salut, Rémi.
Qui dit soleil, dit forcément crème solaire.
Bien sûr.
Tu vas nous parler des crèmes solaires, début du week-end de l'Ascension. Il fait beau à peu près partout en France, mais sur Paris, je ne sais pas, parce que ça fait un moment qu'on est en studio, quel temps il fait là. Mais tout à l'heure, quand on est parti, c'était plutôt début octobre. Ouais. Voilà. Beaucoup de Français, en tout cas, vont profiter pour faire le plein de vitamine D, mais c'est aussi le moment, donc évidemment, de sortir le tube de crème solaire. Allez, comment on choisit laquelle acheter?
La première chose à regarder, c'est l'indice de protection. Donc, ça va être 10, 30, 50, voire 50 plus. Plus on monte, mieux on est protégé. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet indice de protection? En fait, en théorie, c'est la durée pendant laquelle on est protégé. Donc, par exemple, une personne qui a la peau claire va prendre un coup de soleil au bout de 15 minutes d'exposition sans crème. Eh bien, si elle met une crème 50, elle va pouvoir rester 15 fois 50 minutes au soleil sans prendre de coups de soleil. Alors ça fait 12h30, c'est très théorique.
Bon d'accord. Alors tu dis en théorie parce qu'en pratique, c'est pas le cas.
En tout cas, essaye Rémi de passer 12h30 au soleil sur la plage avec une seule application de crème solaire. Je sais pas comment tu vas revenir à l'antenne le lendemain, mais à mon avis, un petit peu cramoisi. Donc la théorie, ça serait que il faudrait pour un homme d'1m80, toi à peu près Rémi, est-ce que c'est
un peu plus
un peu plus d'1m80 en maillot de bain sur la plage, il faudrait que tu t'appliques un tube entier de 30 ml de crème solaire pour avoir une application et donc une protection complète. Le problème, c'est que personne le fait. J'ai posé la question au docteur Laurence Coiffard, qui est professeur en cosmétologie. Elle m'a expliqué qu'on estime qu'en fait, on en met au moins 5 fois moins que ce qui est normalement préconisé. Wow. Sans compter tous les frottements, les baignades, etc., qui éliminent la crème solaire. Donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est en appliquer tout simplement toutes les deux heures.
Attends, tu veux dire de la 50, enfin, c'est ça, c'est l'indice 50 toutes les deux heures?
Oui, voire même de la 50+. La 50+, c'est celle qui personne va vous protéger le mieux. Alors, c'est vrai que plus vous avez la peau foncée, mieux vous êtes protégé naturellement du soleil. C'est ce qu'on appelle le phototype. Mais pour être bien protégé, autant se tourner directement vers une 50+. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs études, notamment une menée par le professeur Coiffard, mais également plus récemment par l'UFC Que Choisir, vous en avez peut-être entendu parler, qui disent qu'un tiers des crèmes solaires ne protègent pas autant que ce qu'elles prétendent. C'est-à-dire qu'une crème 50+, pour certaines d'entre elles en tout cas, va protéger à hauteur d'une protection 30. Donc on privilégie une 50+, avec une protection UVA et UVB, c'est écrit sur le packaging. Normalement, toutes les crèmes protègent des deux, mais vérifiez que c'est bien écrit, puisque les deux types d'UV sont dangereux. On rappelle que le soleil, ça provoque des cancers, des maladies de peau, le vieillissement prématuré de la peau, etc.
Est-ce que les crèmes les plus chères sont les meilleures ?
Non, pas du tout. Cette règle-là ne fonctionne pas pour la crème solaire. D'ailleurs, il est même plutôt pas recommandé de les acheter en parfumerie parce que les marques de luxe, la plupart en tout cas, ajoutent du parfum dans leur crème solaire. Or, le parfum et les filtres chimiques qui composent la crème ne font pas bon ménage. Donc, on privilégie plutôt un achat en pharmacie. On peut trouver une très bonne crème entre 10 et 15 euros, le tube de 250 millilitres.
Et puis, on sait qu'il y a la crème adulte et la crème enfant.
Oui, alors c'est plus un aspect marketing en fait qu'il y a derrière. Bien. Les crèmes enfants, elles ont à peu près la même composition que les crèmes adultes, bien sûr. Alors, il peut y avoir quelques allergènes éventuellement en moins dans les crèmes enfants, mais globalement c'est à peu près la même chose. Et surtout, il y a une arnaque entre guillemets marketing qui est de dire qu'il y a des crèmes solaires pour les bébés. C'est en tout cas ce que le professeur Coiffard me disait, parce qu'en fait il ne devrait pas y avoir de crème pour les bébés. Moi j'en ai une 6 à 30 6 mois, vous
parce
voyez.
Que les bébés, on les met pas au soleil.
Parce que les bébés, on ne les met surtout pas au soleil. On les protège du soleil avec les vêtements, avec l'ombre, mais pas avec de la crème solaire.
Et parfois, j'ai entendu dire qu'il faudrait mettre de la crème solaire toute l'année.
Ça, c'est plutôt une idée reçue, en fait, en tout cas, selon le professeur Coiffard, encore une fois.
Je le vois régulièrement, même en décembre, se badigeonner. Donc,
le problème, c'est que
avec
la crème.
C'est plutôt avec du sein doux.
Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
À quelle horreur.
Voilà, je vais moins sur de l'efficacité.
Oui, mais... ça protège bien.
Le problème, c'est que la crème, elle est composée quand même de filtres chimiques, et ça, c'est pas complètement anodin. Certains de ces filtres sont des perturbateurs endocriniens. Donc, à faire attention. Alors, évidemment, dans la balance bénéfice-risque, bien sûr qu'il faut mettre de la crème solaire contre le soleil, c'est indispensable. En revanche, l'hiver, ça ne sert à rien. C'est même plutôt contre-productif. Donc, ne mettez pas de la crème solaire avant votre crème de jour en plein hiver. Ne réutilisez surtout pas une vieille crème solaire comme crème hydratante, parce que pareil, les filtres chimiques qu'il y a dans la crème, ça n'est pas bon. Et au bout d'un an, vous jetez votre tube. Ça peut paraître pas très écolo, mais c'est ce que les dermatologues recommandent, parce que malheureusement, la crème solaire périme. Donc, il ne faut pas la réutiliser d'une saison sur l'autre.
Merci beaucoup, Charlotte. Tu es là demain ?
Je suis là demain.
On parle de quoi demain ? Tu sais déjà ?
Oui, alors je vais vous parler de musique, de son et de comment parfois cette musique nous pousse à l'achat.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC. À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin. 6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Alfred, donc, on commence avec le face-à-face du jour.
Oui, Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Le Premier ministre va débattre à la télévision avec la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes. Ce sera le 23 mai prochain. Objectif pour le gouvernement, relancer la campagne de la candidate Renaissance Valérie Ayer en grande difficulté dans les sondages. Le parti présidentiel est crédité seulement de 16% d'intention de vote pour les élections européennes. C'est deux fois moins que le parti d'extrême droite.
Benjamin Amar, il y a eu beaucoup d'hésitations. Est-ce qu'on doit ou pas débattre avec le RN, avec Jordan Bardella ? Finalement, c'est Gabriel Attal, pas moins, qui va s'y coller. Est-ce que le Renaissance, est-ce que le gouvernement, enfin le gouvernement, j'allais dire le parti présidentiel, a raison d'y aller ?
Alors, pour qui a lu Le Canard enchaîné la semaine dernière, il était précisé avec les bonnes sources du Canard que c'est une demande expresse d'Emmanuel Macron, ouais. Hein, qui a poussé Gabriel Attal. Mais je veux dire, il y a tout simplement là une réalité, c'est que ça montre que le Renaissance a choisi une tête de liste et que ils n'ont aucune confiance en cette tête de liste pour obtenir un résultat satisfaisant. Ils voient les sondages passer semaine après semaine et donc là, eh bien effectivement, on envoie le soldat Attal pour essayer effectivement d'enrayer cette évolution. Mais encore une fois, pour moi, je vois ça, je l'ai déjà dit d'ailleurs ici, quel désaveu pour la tête de liste quand même.
Ah, oui.
Quel désaveu pour la tête de liste, qui visiblement ne fait pas une bonne campagne, mais elle a été choisie. Et je trouve personnellement que c'est un peu particulier de nommer ainsi une femme tête de liste et ensuite de dire non, c'est pas toi qui vas mener la bataille. Elle a débattu avec Gabriel. Avec oui, Jordan Bagnard. Ouais.
Elle s'en est bien tirée.
Ils
ont perdu un point au sondage dès le lendemain.
Oui,
Mais je veux dire, à un moment, je veux dire, il faut arrêter cette tartufferie, quoi.
Le message est quand même particulier. C'est vrai que ça veut dire que t'es pas à niveau, donc c'est Gabriel qui va t'y coller.
Mais je veux dire, c'est une évidence qu'elle est pas à niveau. Enfin,
Moi, je pense que ce type de débat, effectivement, et en plus avec un petit bougou quand même de préparation, peut-être de 2027.
Oui, mais ça. Attends,
une question. Yael, je te donne la parole. Mais je la pose à toi aussi, Yael. Parce que c'était aussi ma question, est-ce qu'il fallait débattre avec le RN?
Mais évidemment, alors, ils sont à 32% aujourd'hui dans les sondages.
Ça, c'est une excellente question.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Cette question posée aux macronistes, elle est croustillante. Ils ont complètement installé le RN en rôle d'opposition.
Mais sinon, c'est pas
première.
C'est les Français qui le font.
Alors, il y a eu le vote des Français, mais ensuite, il y a eu le vote des Français, mais ensuite, derrière, il y a eu une position macroniste consistant à dire oui, il y a des vice-présidents du RN à l'Assemblée nationale, oui, il y a des élus du RN à toutes les de l'Assemblée, et donc de fait là maintenant la question elle ne se pose plus maintenant. Il est vrai que c'est quand même, on n'a pas mesuré, je pense, le séisme historique des législatives de 2022. On a eu 90 députés RN, c'est un tremblement de terre aussi important que le 21 avril 2002.
Moi ce qui
m'interpelle dans ce face-à-face entre Bardella et Attal, c'est que ce soit une demande expresse d'Emmanuel Macron et que cela soit une demande expresse. Je pense que c'est un piège dans lequel il va aussi enfermer Gabriel Attal, parce que de fait, en se mettant en frontal dans la campagne, parce que de manière Valérie Ayer est clairement, elle n'est pas à niveau, eh bien, il va lui en faire prendre la charge de l'échec aussi. Donc, quelque part, il engage sa responsabilité.
C'est vrai.
Voilà, donc je pense qu'il est en train de le piéger. Je veux dire, c'est un mystère pour personne, c'est un secret pour personne que les relations entre Macron et Attal sont extrêmement mauvaises et que en le mettant comme ça, voilà, frontalement devant Bardella, je pense que le lendemain des élections, je pense que Attal va devoir déposer sa démission.
Ah oui, carrément.
Ah oui.
Perico,
je reviens sur ta question. Tu dis, faut-il débattre avec le RN?
Non, ma question, c'est, est-ce que c'est un choix judicieux de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'on va dire d'envoyer Gabriel Attal débattre avec le RN? Est-ce qu'il fallait absolument débattre avec le RN dans le cadre de ces élections européennes?
Rémi,
est-ce qu'il fallait organiser un débat de télé?
Rémi,
le gouvernement, Emmanuel Macron, a très bien pu dire non. On fait les meetings, on va dans des émissions, mais pas de débat.
Par contre,
et voilà.
Le coup politique qui va être plus loin que Gabriel Attal, je pense que la veste que va se prendre Valérie Hayet, ouais, elle va rejaillir sur toute la Macronie.
Parce que la question, Perico, en organisant ce débat, c'est clairement, c'est nous, Renaissance face au RN, c'est ça. C'est européenne et c'est Gabriel Attal face à Bardella.
Jordan Bardella, et on l'a vu, qu'on apprécie ou pas ses propos, qu'on adhère ou pas à son nez, est une machine de guerre, c'est un rouleau compresseur. C'est Franz-Olivier Gisbert qui l'a dit l'autre jour, et c'est vrai, dans les débats, il est excellent. Jusqu'à un certain niveau, on l'avait vu un petit peu en difficulté avec Glucksmann, qui connaissait ses dossiers par cœur. Mais c'est quand même une bête de débat. Il faut mettre en face de lui, pour arrêter cette hémorragie, quelqu'un qui soit de ce niveau. Or, nous savons que Jordan Bardella est pressenti par Marine Le Pen au poste de Premier ministre si elle est élue. Donc, on lui envoie l'actuel Premier ministre, qui est un grand débatteur, qui a les dossiers en main, s'il est bon, Gabriel Attal. Et si on veut dire, attention, parce que jusqu'à présent, Bardella les a tous un petit peu, et face à Valérie Ayé, enfin, elle était pas la pauvre, on la voit au casse-pipe. Le signal, et c'est ce que vous avez dit tous les deux, comment se fait-il que le parti de la majorité présidentielle, il y a quand même quelques ténors, et on sait très bien qu'ils ont tous été consultés, je ne vais pas citer leur nom, ils ont tous été appelés.
Personne n'a voulu y aller. Mais vous n'êtes pas y aller.
Donc on était content d'avoir trouvé, elle, la pauvre, et donc elle est envoyée. Et maintenant, au moment du débat qui est déterminant pour une élection de ce genre, il faut envoyer quelqu'un qui est...
Ils l'ont sacrifié.
C'est un aveu d'échec terrible, mais ne pas y aller. Ne pas y aller alors qu'ils sont à 32%, c'était aggraver la situation.
Allez, on termine parce qu'on est pris par le temps, mais on va quand même en parler par le bras de fer du jour.
Oui, le réseau social TikTok n'est plus le bienvenu aux États-Unis. La plateforme chinoise est sous la menace d'un bannissement du territoire américain après le vote du Parlement d'une loi qui stipule que TikTok, accusé d'espionnage, a jusqu'à la fin de l'année pour se trouver un nouvel acquéreur occidental de préférence. Résultat, le réseau social a annoncé hier porter plainte contre les États-Unis pour tenter de faire annuler cette décision qui priverait quand même 150 millions d'Américains de leur réseau social préféré.
Benjamin, on n'y va pas par quatre chemins aux États-Unis. Hein.
Oui, mais c'est intéressant parce que, si vous voulez, ça montre à tout le monde que dans les réseaux sociaux, sur un certain nombre de querelles commerciales, on est au cœur de bataille des impérialismes. Des impérialismes. Oui. Parce que il n'y a pas de problème, moi j'ai aucun souci à pointer l'impérialisme chinois ou l'impérialisme russe, mais on ne va pas raconter d'histoire. Il y a un impérialisme occidental, et il fait partie de cette bataille, de ce bras de fer, et c'est la bataille des soft power, tout simplement.
Si Perico. On veut éviter le naufrage de l'humanité à moyen terme, il faut non seulement supprimer TikTok, mais repenser tout ce qui est communication par réseau social. Voilà.
Et un mot.
Vu la facture.
Je pense pas que ça arrivera en France, hein, vu le petit séjour qu'a fait le président chinois là.
Il a mangé la
ici, hein, donc à mon voilà, donc on n'aura pas ce problème ici.
Allez, on passe à toute autre chose et avec grand bonheur. On va sourire un peu, on va peut-être même rire, je le pense, avec Vincent Serroussi.
RMC Estelle Midi.
Serroussi n'a pas tout compris.
Je dis ça parce que c'est un jour férié, donc je sais pas si c'est trop foulé. Le connaissant.
Si, quand même.
Mais Vincent est avec nous. Oui. Salut Vincent.
Salut Rémi, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui,
salut.
Tu ne comprends pas pourquoi les États-Unis veulent interdire TikTok. Ah oui, on en parlait à l'instant.
Je sais. Bah, je sais que c'est un sujet qui ne vous concerne pas beaucoup parce que ça concerne les jeunes. Mais c'est quand même un sujet. Ouais.
Ça va être gratuit.
Les moins de 65 ans en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un sujet important parce que les Américains, oui, vous l'avez dit, veulent interdire TikTok. Moi, j'avoue, j'aurais peut-être commencé par interdire les flingues ou le Ku Klux Klan, mais visiblement, il y a d'autres. Bon, c'est vrai que les Américains expliquent que les Chinois nous espionneraient avec TikTok. Et je comprends les Américains, parce que tout le temps que tu passes sur TikTok à être espionné par les Chinois, bah, tu ne le passes pas sur Instagram à être espionné par les Américains. Donc forcément, ça les ennuie. Quoi.
Bon, est-ce que cette nouvelle t'a surpris, Vincent?
Moi, ce qui m'a surpris d'abord, c'est qu'apparemment, les Américains s'avouaient la Chine. C'est quand même assez surprenant pour des mecs qui pensent que Paris est la capitale de la Suède. Après, bon, si on doit interdire tout ce qui est made in China, je veux dire, bah, Rémi, vos chemises en polyester, c'est mort.
Oh,
les nouilles de sauté de Perico, c'est mort. La personne qui répond au 32-16 et qu'on a délocalisé à Wuhan, c'est mort aussi.
C'est pas vrai.
Il y a quand même beaucoup de monde. Hein.
Ouais. Et toi, Vincent, est-ce que tu es pour l'interdiction de TikTok?
Bah, les Américains ont sans doute raison sur l'espionnage. Après, que les Chinois sachent que sur TikTok, je regarde des vidéos de femmes à poil, de planches à voile. De planches à voile, c'est pas si grave. Non, moi, ce qui me déçoit, c'est que grâce à TikTok, j'avais appris des choses formidables.
Ce soir, je vais me préparer des coquillettes au coca. Ça faisait longtemps que je n'avais pas préparé ce manger-là.
Oui, je permets de leur dire. Tu peux aussi trouver des bons plans sur TikTok.
Ça, c'est de la bombe atomique. C'est des semelles que je mets. Et en fait, c'est des semelles qui permettent de perdre du poids.
C'est quand même dommage de se priver.
C'est vrai, c'est dingue.
Ah oui, c'est dingue. Bon, en revanche, j'espère juste qu'ils vont pas fermer le compte de Joe Biden parce qu'il a posté une vidéo dans laquelle il arrive à parler. Et il a pas réussi. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Autant pour moi.
Bon, est-ce que tu penses que TikTok pourrait être interdit en France?
En France, non. En France, on va pas l'interdire, sinon Gabriel Attal va perdre tous ses abonnés. Mais les influenceurs français sont quand même inquiets de l'interdiction de TikTok en France. Hein. Ils l'ont dit, Miskine, nous on croit qu'il faut pas interdire TikTok. Bon, c'est vrai que sur le coup, on n'était pas certains, mais en t'entendant, l'interdiction est assurée là.
Bon, Vincent, dans l'émission, on s'est également demandé si la multiplication des mobilhomes n'était pas en train de de tuer le camping traditionnel.
Ah oui.
Le camping, la tente, voilà, l'emplacement nu.
Sujet passionnant.
Oui. C'était passionnant, non, absolument.
Moi,
c'est ça.
Moi, je ne savais pas qu'il y avait des différences entre camping-car, mobil-home, tente, parce que pour moi, c'est pareil, c'est juste des vacances de merde. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. Sans parler de tes potes de camping qui te donnent des conseils de couple.
T'as trompé ta femme, elle le sait pas et tu regrettes. Donc t'es un mec bien, Polo.
Ouais, ça donne envie de partir au camping.
Bon, t'as pas l'air d'aimer le camping en tout cas maintenant.
Non, bah moi j'aime bien dormir en fait, voilà, tout simplement. Mais après je suis pas le seul à pas aimer. Hein. Perico m'a dit tout à l'heure que la dernière fois qu'il avait fait du camping, il s'était fait virer de toutes les tentes dans lesquelles il avait essayé d'entrer. C'était un peu compliqué. Non, le seul point positif avec le camping, c'est que c'est le dernier lieu où les bobos et les beaufs se mélangent, quoi. Ça c'est pratique. T'arrives au camping, t'as ceux qui te disent ouais, on veut se rapprocher de la nature, et juste à côté t'entends alors, on attend pas Patrick. C'est de la mixité sociale, quoi. Non, moi, ce que je pense du camping dans tous les cas, c'est que le camping, c'est un peu comme l'histoire de Jeanne d'Arc. Ça finit toujours autour d'un barbecue avec les Anglais. Voilà. Si vous l'avez.
Voilà. Benjamin, tu vois, Benjamin Hamba, prof d'histoire, on a terminé sur une.
Ah, magnifique.
À la façon, évidemment. De Vincent Cerutti. Merci beaucoup.
Merci à
Vincent.
Vous.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Bon réveil avec RMC, il est 4h30. Votre premier journal en direct, toute l'actu ce matin et à la une. Cette fête immense à Marseille et la surprise Jul, c'est finalement le rappeur emblématique de la cité phocéenne qui a embrasé le chaudron olympique hier soir après l'arrivée de la flamme sur le Vieux-Port. Tout cela devant plus de 200 000 personnes. L'avertissement de Joe Biden à Israël ce matin, les États-Unis cesseront de livrer des armes en cas d'offensive à Rafah. Et puis l'actu foot ce soir, c'est à Marseille encore, c'est l'OM qui joue sa place en finale de Ligue Europa en Italie, Bergame, et ce sera sur RMC. Le ciel de Marseille s'est embrasé hier soir. Les anneaux olympiques dessinés par la patrouille de France, les couleurs bleu, blanc, rouge, une soirée de rêve sur le Vieux-Port et encore plus de monde que prévu, plus de 200 000 personnes. Les autorités ont dû fermer les accès dans la soirée pour le concert de Soprano. Avant cela, c'était le secret le mieux gardé. C'est finalement le rappeur emblématique de Marseille, Jul, qui après l'arrivée de Florent Manaudou, à récupérer la flamme pour embraser le chaudron olympique. Julien Richard, de quoi emballer les Marseillais.
Oui, ils attendaient Zinedine Zidane. Mais bien caché sous une capuche, c'était donc Jul, fierté marseillaise.
Allez, Jul, c'est l'icône de Marseille. Hein.
Jul, c'est le meilleur rappeur marseillais. Il a allumé la flamme olympique et il a dit « et merci la
flamme ». Voir Jul sur la scène comme ça, gigoter la flamme olympique. Personne voulait voir quoi ? Ariane Nakamura à Paris ? Allez-y les gars, nous on est à Marseille sur le Vieux-Port. Voilà. Jul sous la flamme.
Même les moins enthousiastes sur l'artiste le reconnaissent.
Un symbole de Marseille. Ah, c'est Marseille bébé.
Bob rouge sur la tête et maillot de l'OM sur le dos. Cécile, grande fan.
Parce que Jul, il est de Marseille. Ses textes parlent beaucoup aux Marseillais. Il est d'une générosité. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime à Marseille. Il n'y a rien sans Jul. Il n'y a rien sans l'OM. À la vie, à la mort.
Jul, la flamme olympique et l'OM, jamais très loin.
Aux armes !
Les Marseillais qui n'avaient qu'une chose à dire à leur idole hier soir.
Au thème, Jul !
Le J, c'est le S.
Voilà.
Voilà de quoi lancer la fête du côté de Marseille, et ça n'est que le début puisque la flamme va maintenant parcourir toute la ville. Aujourd'hui, de la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde jusqu'au stade Vélodrome, avec parmi les relayeurs bien d'autres figures et bien d'autres stars marseillaises. Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba ou encore Eric Dimeco qui sera sur RMC ce matin. Et puis ensuite, la flamme va traverser la France de long en large, 66 villes étapes. Alors, est-ce que vous irez la voir passer près de chez vous? C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32-16. Irez-vous voir la flamme pour participer à la fête? On vous attend. Est-ce que la journée d'hier vous a mis dans l'ambiance, vous a donné envie d'y participer? On débrief aussi toute la soirée ensemble au 32-16. On vous attend et sur l'application RMC. L'actualité ce matin, c'est aussi la situation à Gaza et ce coup de pression du président américain Joe Biden lance un avertissement. Les États-Unis menacent pour la première fois Israël de stopper leur livraison d'armes en cas d'offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza où la situation humanitaire inquiète. Il ne reste plus que l'équivalent de 3 jours de carburant dans les hôpitaux, ce qui fait craindre le pire. Mao Bécard-Granier.
Sans carburant, pas de générateur et donc pas d'électricité dans les hôpitaux pour faire fonctionner les blocs opératoires. Une situation qui alerte le coordinateur humanitaire des Nations Unies dans les territoires palestiniens, Andrea De Domenico.
Les trois hôpitaux restants à Rafah seront inutilisables dans les prochaines heures si les opérations militaires se poursuivent. Plus d'un million de personnes vont être privées de soins. Les femmes enceintes n'ont aucune possibilité pour accoucher en toute sécurité pour leur bébé.
Sur les 36 hôpitaux fonctionnels avant le 7 octobre, seulement une dizaine sont encore ouverts dans la bande de Gaza et complètement saturés. Cela dure dans le temps et continue de s'aggraver, explique Jean-François Corti, vice-président de Médecins Sans Frontières.
Si vous rajoutez à cela une charge supplémentaire de blessés qui vont arriver parce que les bombardements sont intenses et des malades qui sont déjà très affaiblis, alors vous avez tous les indicateurs explosifs sanitaires qui vont engendrer des mortalités.
Les associations humanitaires exigent d'urgence de laisser passer les carburants, mais aussi les médicaments, la nourriture et l'eau à l'intérieur de la bande de Gaza.
Situation sanitaire inquiétante aussi à Mayotte, l'île française de l'océan Indien, frappée par une épidémie de choléra qui a fait un premier mort hier, un enfant de 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai et c'est la journée de l'Europe, à pile un mois des élections. Vous croiserez peut-être un ministre près de chez vous. Aujourd'hui, les membres du gouvernement ont été appelés à être sur le pont pour faire campagne pour la candidate de la majorité, Valérie Ayer, distancée dans les sondages. On parlait de Marseille. La fête va-t-elle continuer ce soir sur le Vieux-Port ? Peut-être, et cette fois pour l'OM qui joue sa place en finale de Ligue Europa, soirée spéciale sur RMC. Le coup d'envoi 21h à Bergame en Italie. Après le match nul, un partout au match aller au Vélodrome. Vous nous dites qu'il y a des raisons d'y croire, Jean Rességuier.
Pour une fois, Jean-Louis Gasset a le choix, son groupe est au complet, hormis Rongier bien sûr, le choix pour son 11 de départ et le choix avec de la qualité sur le banc des remplaçants. Un groupe physiquement régénéré, le fait de ne pas avoir joué le week-end dernier est un vrai plus, selon le milieu international Verretout. La deuxième période du match aller, solide avec des joueurs inspirés, mais cette fois-ci, il faudra être encore plus efficace. L'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, a insisté sur l'entame de match, gagner les duels, répondre aux défis physiques que l'Atalanta va proposer devant son public et surtout ne pas passer à côté d'un rêve, celui de jouer une finale européenne pour eux, les joueurs, et pour le peuple marseillais qui n'attend que ça après avoir accueilli la flamme olympique.
Atalanta OM, le coup d'envoi 21h, donc à suivre en intégralité sur RMC. Et puis en Ligue des Champions, on connaît maintenant l'affiche de la finale. C'est le Real Madrid qui rejoint Dortmund. Victoire 2-1 hier soir des Madrilènes face au Bayern Munich. La finale, ce sera le 1er juin à Wembley. À Londres, il est 4h36, vous êtes bien sur RMC. Charles Matin démarre dans une vingtaine de minutes, toute l'équipe est là, toute l'équipe se prépare. Charles Magnin sera là dès 6h30 et on vous attend évidemment en ce jeudi de l'Ascension, jeudi férié, on vous attend au 32-16. Prenez le temps de débriefer ensemble cette immense fête à Marseille, ces images que vous avez sans doute vues hier soir. La surprise, Jules, on en parlait, est-ce que c'était le bon choix, ces images sublimes du Vieux-Port, le Bélème, la patrouille de France, est-ce que ça vous rend fier, est-ce que ça vous met dans l'ambiance des Jeux, et maintenant la flamme olympique entame son parcours partout en France, est-ce que ça vous donne envie d'aller la voir près de chez vous, est-ce que vous ferez le déplacement pour fêter l'arrivée des Jeux Olympiques en France, plus de 60 villes étapes d'ici à la cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet, la fête olympique partout en France, on en parle ensemble 32-16 et vos messages, c'est sur l'application RMC, vous connaissez le chemin, vous allez sur l'onglet Direct Studio. Rendez-vous dans 20 minutes pour Charles Matin en direct avec toute l'équipe. Et d'ici là, vous êtes avec Rémi Barret et toute l'équipe d'Estelle Midi.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Rien que ça, Charlotte. Rien que ça. Qui dit soleil ? Salut, Charlotte.
Salut, Rémi.
Qui dit soleil, dit forcément crème solaire.
Bien sûr.
Tu vas nous parler des crèmes solaires, début du week-end de l'Ascension. Il fait beau à peu près partout en France, mais oui. Sur Paris, je ne sais pas, parce que ça fait un moment qu'on est en studio, quel temps il fait là. Mais tout à l'heure, quand on est parti, c'était plutôt début octobre. Ouais. Voilà. Beaucoup de Français, en tout cas, vont profiter pour faire le plein de vitamine D, mais c'est aussi le moment, donc évidemment, de sortir le tube de crème solaire. Allez, comment on choisit laquelle acheter ?
La première chose à regarder, c'est l'indice de protection. Donc ça va être 10, 30, 50, voire 50 plus. Plus on monte, mieux on est protégé. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet indice de protection ? En fait, en théorie, c'est la durée pendant laquelle on est protégé. Donc, par exemple, une personne qui a la peau claire va prendre un coup de soleil au bout de 15 minutes d'exposition sans crème. Bien, si elle met une crème 50, elle va pouvoir rester 15 fois 50 minutes au soleil sans prendre de coups de soleil. Alors ça fait 12h30, c'est très théorique.
Bon d'accord. Alors tu dis en théorie parce qu'en pratique c'est pas le cas.
En tout cas, essaye Rémi de passer 12h30 au soleil sur la plage avec une seule application de crème solaire. Je sais pas comment tu vas revenir à l'antenne le lendemain, mais à mon avis un petit peu cramoisi. Donc la théorie, ça serait que il faudrait pour un homme d'1m80, toi à peu près Rémi, est-ce que c'est
un peu plus
ça, un peu plus. Un peu plus d'1m80 en maillot de bain sur la plage, il faudrait que tu t'appliques un tube entier de 30 ml de crème solaire pour avoir une application et donc une protection complète. Le problème, c'est que personne ne le fait. J'ai posé la question au docteur Laurence Coiffard, qui est professeur en cosmétologie. Elle m'a expliqué qu'on estime qu'en fait, on en met au moins 5 fois moins que ce qui est normalement préconisé, sans compter tous les frottements, les baignades, etc., qui éliminent la crème solaire. Donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est en appliquer tout simplement toutes les 2 heures.
Attends, tu veux dire de la 50, enfin c'est ça, c'est l'indice 50 toutes les 2 heures?
Oui, voire même de la 50 plus. La 50 plus, c'est celle qui va vous protéger le mieux. Alors, c'est vrai que plus vous avez la peau foncée, mieux vous êtes protégé naturellement du soleil, c'est ce qu'on appelle le phototype. Mais pour être bien protégé, autant se tourner directement vers une 50+. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs études, notamment une menée par le professeur Coiffard, mais également plus récemment par l'UFC Que Choisir, vous en avez peut-être entendu parler, qui disent qu'un tiers des crèmes solaires ne protègent pas autant que ce qu'elles prétendent. C'est-à-dire qu'une crème 50+, pour certaines d'entre elles en tout cas, va protéger à hauteur d'une protection 30. Donc on privilégie une 50+, avec une protection UVA et UVB, c'est écrit sur le packaging. Normalement, toutes les crèmes protègent des deux, mais vérifiez que c'est bien écrit, puisque les deux types d'UV sont dangereux. On rappelle que le soleil, ça provoque des cancers, des maladies de peau, le vieillissement prématuré de la peau, etc.
Est-ce que les crèmes les plus chères sont les meilleures ?
Non, pas du tout. Cette règle-là ne fonctionne pas pour la crème solaire. D'ailleurs, il est même plutôt pas recommandé de les acheter en parfumerie parce que les marques de luxe, la plupart en tout cas, ajoutent du parfum dans leur crème solaire. Or, le parfum et les filtres chimiques qui composent la crème ne font pas bon ménage. Donc, on privilégie plutôt un achat en pharmacie. On peut trouver une très bonne crème entre 10 et 15 euros, le tube de 250 millilitres.
Et puis, on sait qu'il y a la crème adulte et la crème enfant.
Oui, alors c'est plus un aspect marketing en fait qu'il y a derrière. Les crèmes enfants, elles ont à peu près la même composition que les crèmes adultes, bien sûr. Alors, il peut y avoir quelques allergènes éventuellement en moins dans les crèmes enfants, mais globalement c'est à peu près la même chose. Et surtout, il y a une arnaque entre guillemets marketing qui est de dire qu'il y a des crèmes solaires pour les bébés. C'est en tout cas ce que le professeur Coiffard me disait, parce que en fait il ne devrait pas y avoir de crème pour les bébés. Moi j'en ai une 6 à 36 mois, vous
parce
voyez.
Parce que les bébés, on les met pas au soleil.
Parce que les bébés, on ne les met surtout pas au soleil. On les protège du soleil avec les vêtements, avec l'ombre, mais pas avec de la crème solaire.
Et parfois, j'ai entendu dire qu'il faudrait mettre de la crème solaire toute l'année.
Ça, c'est plutôt une idée reçue, en fait, en tout cas, selon le professeur Coiffard, encore une fois.
Je le vois régulièrement, même en décembre, se badigeonner. Donc,
le problème, c'est que la crème.
C'est plutôt avec du Saint-Doux.
Ah, c'est pas pareil.
Quelle horreur.
Voilà, je suis moins sûre de l'efficacité.
Oui, mais... ça protège bien.
Le problème, c'est que la crème, elle est composée quand même de filtres chimiques, et ça, c'est pas complètement anodin. Certains de ces filtres sont des perturbateurs endocriniens. Donc, à faire attention. Alors, évidemment, dans la balance bénéfice-risque, bien sûr qu'il faut mettre de la crème solaire contre le soleil, c'est indispensable. En revanche, l'hiver, ça ne sert à rien. C'est même plutôt contre-productif. Donc, ne mettez pas de la crème solaire avant votre crème de jour en plein hiver. Ne réutilisez surtout pas une vieille crème solaire comme crème hydratante, parce que pareil, les filtres chimiques qu'il y a dans la crème, ça n'est pas bon. Et au bout d'un an, vous jetez votre tube. Ça peut paraître pas très écolo, mais c'est ce que les dermatologues recommandent, parce que malheureusement, la crème solaire périme. Donc, il ne faut pas la réutiliser d'une saison sur l'autre.
Merci beaucoup, Charlotte. Tu es là demain ?
Je suis là demain.
On parle de quoi demain ? Tu sais déjà ?
Oui, alors je vais vous parler de musique, de son et de comment parfois cette musique nous pousse à l'achat.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39h. Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
Le Moscato Show, on sait très bien que quoi qu'il arrive, on va se mettre à 15h et on va se marrer, quoi. Et c'est un peu un rayon de soleil dans la grisaille, c'est ça qui est génial.
Une bande allumée autour de Vincent Moscato pour le show sport le plus déjanté de la radio.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h sur RMC. Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Alfred, donc, on commence avec le face-à-face du jour.
Oui, Gabriel Attal face à Jordan Bardella. Le Premier ministre va débattre à la télévision avec la tête de liste du Rassemblement National aux Européennes. Ce sera le 23 mai prochain. Objectif pour le gouvernement, relancer la campagne de la candidate Renaissance Valérie Ayer en grande difficulté dans les sondages. Le parti présidentiel est crédité seulement de 16% d'intention de vote pour les élections européennes. C'est deux fois moins que le parti d'extrême droite.
Benjamin Hamard, il y a eu beaucoup d'hésitations. Est-ce qu'on doit ou pas débattre avec le RN, avec Jordan Bardella ? Finalement, c'est Gabriel Attal, pas moins, qui va s'y coller. Est-ce que le Renaissance, est-ce que le gouvernement, enfin le gouvernement, j'allais dire le parti présidentiel, a raison d'y aller ?
Alors, pour qui a lu le Canard enchaîné la semaine dernière, il était précisé avec les bonnes sources du Canard que c'est une demande expresse d'Emmanuel Macron, ouais, hein, qui a poussé Gabriel Attal. Mais je veux dire, il y a tout simplement là une réalité, c'est que ça montre que le Renaissance a choisi une tête de liste et que ils n'ont aucune confiance en cette tête de liste pour obtenir un résultat satisfaisant. Ils voient les sondages passer semaine après semaine et donc là, eh bien effectivement, on en voit le soldat Attal pour essayer effectivement d'enrayer cette évolution. Mais encore une fois, pour moi, je vois ça, je l'ai déjà dit d'ailleurs ici, quel désaveu pour la tête de liste quand même.
Ah, oui.
Quel désaveu pour la tête de liste qui visiblement ne fait pas une bonne campagne, mais elle a été choisie. Et je trouve personnellement que c'est un peu particulier de nommer ainsi une femme tête de liste et ensuite de dire non, c'est pas toi qui vas mener la bataille. Elle a débattu avec Gabriel.
Elle s'en est bien tirée.
Ils ont perdu un point au sondage dès le lendemain.
Oui.
Correctement. Mais je veux dire, à un moment, je veux dire, il faut arrêter cette tartufferie, quoi.
Le message est quand même particulier. C'est vrai que ça veut dire que t'es pas à niveau, donc c'est Gabriel qui va se coller.
Mais je veux dire, c'est une évidence qu'elle est pas à niveau. Enfin,
moi, je pense que ce type de débat, effectivement, et en plus avec un petit bougou quand même de préparation, peut-être de 2027.
Oui, mais ça. Attends,
une question. Yael, je donne la parole. Mais je la pose à toi aussi, Yael. Parce que c'était aussi ma question, est-ce qu'il fallait débattre avec le RN?
Mais évidemment, alors, ils sont à 32% aujourd'hui dans les sondages.
Ça, c'est une excellente question.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Cette question posée aux macronistes, elle est croustillante. Ils ont complètement installé le RN en rôle d'opposition.
Mais sinon, c'est pas
première.
C'est les Français qui le font.
Alors, il y a eu le vote des Français, mais ensuite, il y a eu le vote des Français, mais ensuite, derrière, il y a eu une position macroniste consistant à dire oui, il y a des vice-présidents du RN à l'Assemblée nationale, oui, il y a des élus du RN à toutes les instances de l'Assemblée, et donc de fait là maintenant la question elle se pose plus. Maintenant, il est vrai que c'est quand même, on n'a pas mesuré, je pense, le séisme historique des législatives de 2022. On a eu 90 députés RN. C'est un tremblement de terre aussi important que le 21 avril 2002.
Moi, ce qui m'interpelle dans ce face-à-face entre Bardella et Attal, c'est que ce soit une demande express d'Emmanuel Macron. Et que cela soit une demande express, je pense que c'est un piège dans lequel il va aussi enfermer Gabriel Attal. Parce que, de fait, en se mettant en frontal dans la campagne, parce que de manière Valérie Ayer, clairement, elle n'est pas à niveau, eh bien, il va lui en faire prendre la charge de l'échec aussi. Donc, quelque part, il engage sa responsabilité.
C'est vrai.
Voilà, donc je pense qu'il est en train de le piéger. Je veux dire, c'est un mystère pour personne, c'est un secret pour personne que les relations entre Macron et Attal sont extrêmement mauvaises et que en le mettant comme ça, voilà, frontalement devant Bardella, je pense que le lendemain des élections, je pense que Attal va devoir déposer sa démission.
Ah oui, carrément.
Ah oui.
Perico,
je reviens sur ta question. Tu dis, faut-il débattre avec le RN? Tu parles de fréquentabilité.
Non, c'est pas le cas. Non, c'était pas le cas. Non, ma question, c'est est-ce que c'est un choix judicieux de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'on va dire les choses sérieuses, d'envoyer Gabriel Attal débattre avec le RN? Est-ce qu'il fallait absolument débattre avec le RN dans le cadre de ces élections européennes?
Rémi,
est-ce qu'il fallait organiser un débat de télé?
Rémi,
Emmanuel Macron aurait pu dire non. on laisse les, on fait les meetings, on va dans des émissions, mais pas de débat.
Par contre,
et voilà,
le coup politique qui va être plus loin que Gabriel Attal. Je pense que la veste que va se prendre et Valérie Hayet, ouais, elle va rejaillir sur toute la
Macronie. Parce que la question, Perico, c'est
oui,
clair.
Mais on a,
là, si vous voulez, si je peux intervenir, je veux bien.
Perico, en organisant ce débat, c'est clairement, c'est nous, Renaissance face au RN, c'est ça. C'est européenne et c'est Gabriel Attal face à Bardella.
Jordan Bardella, et on l'a vu, qu'on apprécie ou pas ses propos, qu'on adhère ou pas à son nez, est une machine de guerre, c'est un rouleau compresseur, c'est Franz-Olivier Gisbert qui l'a dit l'autre jour, et c'est vrai, dans les débats, il est excellent. Jusqu'à un certain niveau, on l'avait vu un petit peu en difficulté avec Glucksmann qui connaissait ses dossiers par cœur. Mais c'est quand même une bête de débat. Il faut mettre en face de lui, pour arrêter cette hémorragie, quelqu'un qui soit de ce niveau. Or, nous savons que Jordan Bardella est pressenti par Marine Le Pen au poste de Premier ministre, si elle est élue. Donc, on lui envoie l'actuel Premier ministre, qui est un grand débatteur, qui a les dossiers en main, s'il est bon, Gabriel Attal. Et si on veut dire, attention, parce que jusqu'à présent, Bardella les a tous un petit peu, et face à Valérie Hayet, enfin, elle était pas la pauvre, on l'envoie au casse-pipe. Le signal, et c'est ce que vous avez dit tous les deux, comment se fait-il que partie de la majorité présidentielle, il y a quand même quelques ténors, et on sait très bien qu'ils ont tous été consultés, je ne vais pas citer leur nom, ils ont tous été appelés.
Personne n'a voulu y aller.
Mais ils ne voulaient pas y aller.
Donc on était content d'avoir trouvé, elle, la pauvre, et donc elle est envoyée. Et maintenant, au moment du débat qui est déterminant pour une élection de ce genre, il faut envoyer quelqu'un qui est...
Ils l'ont sacrifié.
C'est un aveu d'échec terrible, mais ne pas y aller. Ne pas y aller alors qu'ils sont à 32%, c'était aggraver la situation.
Allez, on termine parce qu'on est pris par le temps, mais on va quand même en parler par le bras de fer du jour.
Oui, le réseau social TikTok n'est plus le bienvenu aux États-Unis. La plateforme chinoise est sous la menace d'un bannissement du territoire américain après le vote du Parlement d'une loi qui stipule que TikTok, accusé d'espionnage, a jusqu'à la fin de l'année pour se trouver un nouvel acquéreur occidental de préférence. Résultat, le réseau social a annoncé hier porter plainte contre les États-Unis pour tenter de faire annuler cette décision qui priverait quand même 150 millions d'Américains de leur réseau social préféré.
Benjamin, on n'y va pas par quatre chemins aux États-Unis. Hein.
Oui, mais c'est intéressant parce que, si vous voulez, ça montre à tout le monde que dans les réseaux sociaux, sur un certain nombre de querelles commerciales, on est au cœur de bataille des impérialismes. Des impérialismes. Oui. Parce que il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun souci à pointer l'impérialisme chinois ou l'impérialisme russe, mais on ne va pas raconter d'histoire. Il y a un impérialisme occidental, et il fait partie de cette bataille, de ce bras de fer, et c'est la bataille des soft power, tout simplement.
Si Perico. On veut éviter le naufrage de l'humanité, à moyen terme, il faut non seulement supprimer TikTok, mais repenser tout ce qui est communication par réseau social. Voilà.
Vu
la facture.
Je pense pas que ça arrivera en France, hein, vu le petit séjour qu'a fait le président chinois là.
Il a mangé la
garbure. Ici, hein, donc on n'aura pas ce problème ici.
Allez, on passe à toute autre chose, et avec grand bonheur. Ah. On va sourire un peu, on va peut-être même rire, je le pense, avec Vincent Cerroussi.
RMC, Estelle Midi.
Cerroussi n'a pas tout compris.
Je dis ça parce que c'est un jour férié, donc je ne sais pas si c'est trop foulé, de connaissance.
Si, quand même.
Mais Vincent est avec nous. Oui. Salut Vincent.
Salut Rémi, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui,
salut.
Tu ne comprends pas pourquoi les États-Unis veulent interdire TikTok. Ah oui, on en parlait à l'instant.
Je sais. Bah, je sais que c'est un sujet qui ne vous concerne pas beaucoup parce que ça concerne les jeunes, mais c'est quand même un sujet. Les moins de 65 ans en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un sujet important parce que les Américains, oui, vous l'avez dit, veulent interdire TikTok. Moi, j'avoue, j'aurais peut-être commencé par interdire les flingues ou le Ku Klux Klan, mais visiblement, il y a d'autres. Priorité. Bon, c'est vrai que les Américains expliquent que les Chinois nous espionneraient avec TikTok. Et je comprends les Américains, parce que tout le temps que tu passes sur TikTok à être espionné par les Chinois, bah, tu ne le passes pas sur Instagram à être espionné par les Américains. Donc forcément, ça les ennuie. Quoi.
Bon, est-ce que cette nouvelle t'a surpris, Vincent?
Moi, ce qui m'a surpris d'abord, c'est qu'apparemment, les Américains s'avouaient la Chine. C'est quand même assez surprenant pour
c'est
des mecs qui pensent que Paris est la capitale de la Suède. Après, bon, si on doit interdire tout ce qui est made in China, je veux dire, bah, Rémi, vos chemises en polyester, c'est mort.
Oh,
les nouilles de sauté de Perico, c'est mort. Oh, la personne qui répond au 32-16 et qu'on a délocalisé à Wuhan, c'est mort aussi.
C'est pas vrai.
Ça fait quand même beaucoup de monde. Hein.
Ouais. Et toi, Vincent, est-ce que tu es pour l'interdiction de TikTok?
Les Américains ont sans doute raison sur l'espionnage. Après, que les Chinois sachent que sur TikTok, je regarde des vidéos de femmes à poil, de planches à voile. De planches à voile, c'est pas si grave. Non, moi, ce qui me déçoit, c'est que grâce à TikTok, j'avais appris des choses formidables.
Ce soir, je vais me préparer des coquillettes au coca. Ça faisait longtemps que je n'avais pas préparé ce manger-là.
Oui, je me permets de leur dire. Tu peux aussi trouver des bons plans sur TikTok.
Ça, c'est de la bombe atomique. C'est des semelles que je mets. Et en fait, c'est des semelles qui permettent de perdre du poids.
C'est quand même dingue,
c'est vrai, c'est dingue.
Bah oui, c'est dingue. Bon, en revanche, j'espère juste qu'ils vont pas fermer le compte de Joe Biden parce qu'il a posté une vidéo dans laquelle il arrive à parler. Et Ah non, bon, il n'a pas réussi. Non, je me suis trompé. Attends pour moi.
Bon, est-ce que tu penses que TikTok pourrait être interdit en France ?
En France, non. En France, on ne va pas l'interdire, sinon Gabriel Attal va perdre tous ses abonnés. Mais non, mais les influenceurs français sont quand même inquiets de l'interdiction de TikTok en France. Hein. Ils l'ont dit, Miskin, nous, on croit qu'il ne faut pas interdire TikTok. Bon, c'est vrai que sur le coup, on n'était pas certain, mais en t'entendant, l'interdiction est assurée, là.
Bon, dans l'émission, on s'est également demandé si la multiplication des mobilhomes n'était pas en train de tuer le camping traditionnel.
Ah oui.
Le camping, la tente, voilà, l'emplacement du.
Sujet passionnant.
Oui. C'était passionnant, non, absolument.
Oui, moi, je ne savais pas qu'il y avait des différences entre camping-car, mobilhome, tente, parce que pour moi, c'est pareil, c'est juste des vacances de merde. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. Sans parler de tes potes de camping qui te donnent des conseils de couple.
T'as trompé ta femme, elle le sait pas et tu regrettes. Donc t'es un mec bien, Polo.
Ouais, ça donne envie de partir au camping.
Bon, t'as pas l'air d'aimer le camping en tout cas maintenant.
Non, bah moi j'aime bien dormir en fait, voilà, tout simplement. Mais après je suis pas le seul à pas aimer. Hein. Perico m'a dit tout à l'heure que la dernière fois qu'il avait fait du camping, il s'était fait virer de toutes les tentes dans lesquelles il avait essayé d'entrer. C'était un peu compliqué. Non, le seul point positif avec le camping, c'est que c'est le dernier lieu où les bobos et les beaufs se mélangent quoi. Ça c'est pratique. T'arrives au camping, t'as ceux qui te disent ouais, on veut se rapprocher de la nature, et juste à côté t'entends alors, on attend pas Patrick. C'est de la mixité sociale, quoi. Non, moi, ce que je pense du camping, dans tous les cas, c'est que le camping, c'est un peu comme l'histoire de Jeanne d'Arc. Ça finit toujours autour d'un barbecue avec les Anglais. Voilà. Si vous l'avez.
Voilà. Benjamin, tu vois, Benjamin Hamard, prof d'histoire, on a terminé sur une
histoire magnifique.
À la façon, évidemment. De Vincent Serruti. Merci beaucoup.
Merci à
Vincent.
Vous.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Dis Siri, né RMC.
D'accord. Voilà RMC Info Talk Sport.
Écoutez RMC sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps. Tous les jours de 9h à midi sur RMC,
Alain Marchal et Olivier Truchot débattent de l'actu
avec des Français de tous bords
qui n'ont pas la langue dans leur poche.
C'est les grandes gueules.
Tout à l'heure, 9h midi sur RMC.
Salut, c'est Jérôme Roten.
RMC, Roten sans flamme.
Événement dès 18h dans Roten sans flamme. Les Marseillais sont aux portes d'une finale de Coupe d'Europe. Avant-match d'OM-Atalanta avec Jean-Michel Larqué et Pascal Olmeta.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Rendez-vous dès 18h pour Roten sans flamme sur RMC.
Good morning. Good morning.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
Sébastien Krebs.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 4h56, nous sommes le jeudi 9 mai, c'est jeudi de l'Ascension, c'est férié ce matin. Vous êtes en train de terminer la nuit, de commencer la journée très tôt, vous êtes avec nous. Soyez les bienvenus, c'est Charles Matin qui démarre, rassurez-vous, toute l'équipe est là, Estelle est là, salut Estelle.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Ça va en pleine forme ?
En pleine forme, c'était une jolie cérémonie hier soir.
C'était chouette, ces images de Marseille.
Incroyable.
On était un peu tous devant la télé je crois.
Sous le soleil.
Un peu scotché par ce qu'on voyait. C'est vrai, très très belles images. Il y a eu plus de monde que prévu hein, sur le Vieux-Port, c'était incroyable.
Oui, plus de 200 000 personnes. Et combien devant la télé ? Eh bien, la terre entière a vu les numéros de la Patrouille de France, l'arrivée du Bélème ou encore le rappeur Jules qui a allumé le chaudron olympique. Un spectacle grandiose.
Et ouais, c'était donc lui, Jules, la surprise du soir, le relayeur qui finalement a allumé le chaudron. On avait parlé de Zinedine Zidane, oui. On n'a pas vu Zizou hier soir. On verra, peut-être qu'on le verra à un autre moment. Il n'était pas là hier soir, c'était le rappeur emblématique de Marseille, Jules, qui a récupéré la flamme après notamment Florent Manaudou qui est descendu du bateau. Est-ce que c'était le bon choix, Jules, pour allumer ce chaudron olympique? Pas un sportif, mais voilà, une star du rap, aussi chanteur très populaire et figure de Marseille. Est-ce que c'était le bon choix? Venez nous le dire au 32-16. On va débriefer la soirée d'hier ensemble, vous donner la parole. Est-ce que ces images vous ont rendu fier? Est-ce que ça vous a mis dans l'ambiance de fête, dans l'ambiance des Jeux? Et puis, maintenant que la flamme olympique commence son parcours sur le sol français, elle sera encore à Marseille aujourd'hui, mais ensuite elle va parcourir toute la France. Est-ce que ça vous donne envie d'aller la voir passer près de chez vous pour participer à la fête? C'est notre question du jour. À vous de nous dire au 32-16, à vous de nous dire sur l'appli RMC. On lit tous vos messages sur l'onglet Direct Studio.
Et oui, parce que la flamme a 79 jours désormais pour faire le tour de la France. 66 villes étapes. La flamme va passer par 400 communes, sûrement hein, près de chez vous, Valence, Angoulême, Périgueux, Bordeaux, Vannes, Amiens ou même Chamonix.
Ouais, il y a plein de villes, hein. Il y a Toulouse, il y a Angers, il y a Brest, Amiens, Lille, Strasbourg, Dijon. Voilà, n'hésitez pas à nous demander parce qu'on a la liste. On pourra vous dire oui. À quelle date elle passe éventuellement près de chez vous. 32-16, on en parle tous ensemble et on lit tous vos messages en ce jeudi de l'Ascension. On va quand même jeter un œil à la météo du jour puisque c'est la suite de ce pont, de ce viaduc où beaucoup de ceux qui nous écoutent ne travaillent pas aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter, Estelle? Est-ce qu'il va faire beau?
Oui, il va faire très beau ce matin. C'est tout de même quelques bancs de brouillard hein, qui sont parfois notamment présents, en particulier sur le quart nord-ouest ainsi que sur l'Aquitaine, entre le sud des Landes et le Gers. Quelques nuages également entre le Jura, Lyon et l'est de l'Auvergne. Mais ailleurs, le soleil va être largement présent. Et puis cet après-midi, un soleil qui va briller hein, sur la plupart des régions, sauf de Lille à Lyon, où ce sera un peu plus nuageux et quelques averses possibles entre la Savoie et Nice. 6 à 16 degrés ce matin. Et puis cet après-midi, 21 à Lille, 22 à Paris, à Nice, 23 à Tarbes et à La Rochelle, et jusqu'à 25 degrés à Nîmes. Pour les prochains jours, eh bien, ce sera un vendredi et un samedi très ensoleillé encore, et avant le retour dimanche de la pluie. Mais samedi, on attend par certains endroits, notamment dans l'ouest de la France, jusqu'à 31 degrés.
Sympa.
Il faudra s'attendre à une rechute, malheureusement, des températures dès la semaine prochaine avec quelques averses.
La météo sur RMC avec Sonélia.